Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, ce noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Canus et le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique. Et aujourd'hui, je suis dans les locaux avec Anne-Lise.
Bonjour. Bonjour.
Mehdi.
Bonjour.
Et Brune.
Bonjour.
Et moi-même, Sarah. Et aujourd'hui, nous sommes tout droit présent pour une émission sur la sexualité. Et c'est la thématique de la série que tu as écrite avec Mathieu Brune.
Oui, voilà, c'est ça.
Qui s'appelle Le Petit Monde de Claude.
Voilà.
Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ce projet de série que vous avez écrit?
Ouais. Alors, je vais parler aussi au nom de Mathieu, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est en tournage à Marseille. Donc je vais parler pour lui. Mathieu, lui, c'est un scénariste depuis longtemps. Il a beaucoup d'expérience dans l'écriture du court-métrage. Il a réalisé également. Et moi, je suis plus jeune dans l'exercice parce que je me suis mise à l'écriture il y a un an. Et en fait, on s'est rencontrés dans ce domaine-là, ce domaine de l'écriture. J'avais déjà lu ses scénarios et je trouvais son écriture très fine. Et moi, j'ai écrit une nouvelle que j'ai adaptée en scénario et je l'ai un peu harcelée pour qu'il la lise et pour qu'il la corrige. Parce que j'avais envie de la proposer au Festival de Valence, qui est un festival de scénaristes et de compositeurs. Donc j'ai un petit peu harcelé et il a fini par lire le scénario. Il m'a fait ses retours, que j'ai trouvé aussi fin que son écriture d'ailleurs. Et c'est là que tout a commencé, puisque ce scénario a été sélectionné au Festival de Valence. Et il se trouve que Mathieu aussi, la même année, a été sélectionné. Donc on s'est retrouvés tous les deux là-bas. Pendant le marathon, donc le marathon c'est une écriture d'un autre scénario en 48 heures sur un thème imposé. Donc on s'est retrouvés tous les deux à écrire d'autres scénarios, à être dans le stress pendant 48 heures. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et puis c'est lui qui est revenu vers moi en disant « Bon écoute, il faut qu'on écrive quelque chose ensemble. » Là, j'ai l'impression qu'on se suit. Et moi, j'avais jamais écrit avec un co-auteur. Donc c'est le premier projet qu'on écrit, que moi j'écris à deux. Et l'écriture à deux, c'est formidable parce que ça permet de rebondir dans des échanges, ça permet de... des fois, on se perd dans la cohérence, mais ça permet d'espacer, de ramener plus d'expérience, en fait. Et donc, on s'est lancé, on avait cette envie commune de parler de sexualité. Et j'ai trouvé ça très bien parce que lui étant un homme et moi une femme, on avait forcément des expériences... très complémentaire à ce sujet. Donc la sexualité est venue très rapidement sur le tapis. Et ensuite, on a débuté par des conversations. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? C'est quoi pour toi la sexualité? Et c'est quoi pour toi la sexualité? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc on est rentré dans des conversations qui sont très intimes, même si on se connaissait finalement pas tant. Et c'est moi, ça m'a fait du bien parce que c'est pas toujours qu'on peut en parler finalement. Enfin, on en parle peut-être des fois. On raconte des expériences, mais vraiment rentrer dans la vulnérabilité de ce que c'est que la sexualité avec un homme qui n'est pas son partenaire, un professionnel de l'écriture. Et moi, je me pensais professionnel de l'écriture également. C'est vrai que ça a changé, ça a modifié notre regard sur la sexualité. Et j'aime beaucoup parce qu'on a tous les deux progressé sur cette vision-là, parce qu'on, même s'il y a des expériences personnelles, le petit monde de Claude, c'est beaucoup d'expériences personnelles, mais c'est aussi des recherches. Donc ça permet de compléter sa connaissance et de l'étayer avec d'autres témoignages aussi.
Bien, merci pour cette présentation. Sans plus de préambule, Tout de suite, le pilote, bonne écoute.
Le petit monde de Claude. Pilote. Scène 1, intérieur nuit, appartement de Cléa.
Encore, encore. Écarte-lui la chemise, putain, qu'on voit ses seins. Je suis assise sur le canapé de Cléa, de dos, courbée devant mon ordinateur portable. Le mec a la gueule d'un loubar qu'on trouve à 8 heures au PMU, avec son kéno et sa Marlboro. Il tire une latte et regarde la fille comme s'il était pressé. Un type fin, une dent en moins, les cheveux plaqués sur le crâne, avec des Air Max et un jean serré. Elle ressemble à rien. Peut-être à une cuvette en plastique. Elle est blonde, sans lettres. Elle n'est ni petite ni grande. Des traits mous, trop de maquillage. Elle porte une mini-jupe bordeaux en cuir et une chemise ouverte sur ses seins qui tombent. Scénario classique. Elle à la table d'un café. Lui, il est là aussi, avec ses trois autres crevards de potes. Et il n'y a personne d'autre. Il se lève, la clope à la main, tenue entre son pouce et son index, là, comme pour lui donner la contenance qu'il n'a jamais eue. Et moi, ça m'excite déjà. Je me touche. Il est là, debout devant elle, avec un regard de porc libidineux. Il l'invite à aller s'asseoir à la table avec eux. Et puis là, j'arrête les détails. Parce que c'est sale. Il lui renverse du champagne dessus. Elle prétend qu'elle doit partir. Elle résiste à moitié. Lui la baisse déjà. Plus il l'humilie, plus ça m'excite.
Un instant plus tard.
Je jouis sur le canapé. Je jouis avant lui. Le porno continue de défiler. Lui continue de la baiser. Elle de se faire baiser. Mon désir calmé, je regarde sa pauvre gueule de fausse blonde. Les râles de lui, de ses potes. J'ai une moue de dégoût. Je referme l'ordi aussi vite que je l'ai ouvert. Et là, je vois mon visage triste sur le miroir en face de moi.
Scène 2. Extérieur, nuit. Avion puis aéroport.
Ah, il fait froid, putain de froid. J'ai les traits tirés dans le reflet de la vitre de la berline. Taxi. Oui, bonsoir. Repère Chevrier. Pas un sourire. Il ne me dit rien du trajet. Pourquoi il me parlerait? J'ai un style à faire peur. Un vieux bonnet, trois t-shirts les uns sur les autres, un sarouel et la vieille veste en cuir de ma mère. Je tripote mon paquet de clopes, des bretèques indonésiennes. Je m'en colle une dans la bouche, mais ici on ne fume pas dans les voitures. Ici c'est sombre, c'est froid. Quand le taxi se gare, je sors ma valise du coffre et pète direct une de ses roulettes. Fais chier.
Scène 3. Intérieur nuit. Appartement de Cléa.
Mais comment tu vas ?
Me dit Cléa avec sa bonhomie joviale dès qu'elle ouvre la porte. Elle me prend dans ses bras. Je lui tapote sur le dos. Cléa. Cléa, ma blonde. Ma belle blonde. Moi, je suis brune. Et j'ai les cheveux filasses. Ouais, ouais, bah ça va, je dis. J'entre dans un appartement au ton jaune et orange, bien rangé, cosy. Le salon est spacieux.
Il fait froid, hein, ici. Oh, 10 ans, ma chérie. Mais t'y crois, toi ? T'as pas changé, hein. Mais pourquoi t'es revenue ?
Elle est dramatique sur le mot...
Pourquoi ?
J'hausse les épaules, mal à l'aise. Ah, il faut, hein. Cléa ne se laisse pas décontenancer par ma réponse évasive.
Et ton père, ça va ?
Ouais, ouais.
Tu rentres chez lui ce week-end ?
Ouais, je sais pas.
Tu restes ici autant que tu veux, tu le sais, ça ?
Je fais ce que j'estime être un sourire. Il doit pas être réussi, puisqu'elle est immobile une seconde, désemparée, puis elle s'en va dans la cuisine.
Je te fais un thé.
Je m'assois sur le canapé. Un drap et des couvertures sont pliés, posés sur l'accoudoir. Quand elle revient, elle dit...
Je suis vraiment contente de te revoir, ma Claude.
Moi aussi, je réponds. Mais je ne suis pas convaincante. Cléa allume la télé sur une émission. Elle rit.
Ah, oh, mais tu connais pas, tu vas voir, c'est si drôle.
Je feins de suivre, ne ris pas, 22h. Je prétexte le décalage horaire. Il faut que je me couche. Cléa tire la gueule une fraction de seconde, parce qu'elle n'a pas envie d'abandonner sa télé. Mais tout à son effervescence et au naturel chaleureux qui se dégage d'elle, elle dit...
Allez, ma chérie, dors un peu, hein. Moi, je me lève tôt demain, je vais voir ma sœur. On aura le temps de discuter, tu me raconteras tout.
Elle rentre dans sa chambre, je l'entends susurrer au téléphone.
Un instant plus tard.
Ah, j'ai si froid. Malgré deux couvertures, je garde tous mes habits pour dormir. Je respire l'odeur de ma manche.
Scène 4, extérieur jour, Jakarta.
J'ai les flashs d'une rue bondée, les mains dans les sacs à épices, une cigarette Bretec à la bouche. Farid plonge lui aussi ses mains dans le sac à épices.
Scène 5, intérieur jour, appartement de Cléa.
J'ouvre difficilement les yeux, il fait gris dehors. Je regarde mon tel, cherche papa dans mon répertoire, me ravise et le remet dans ma poche.
Un instant plus tard,
j'ouvre le frigo rempli de bonnes choses. Je parcours les rayons d'un regard vide. Je prends deux tranches de pain de mie et je me mets du Nutella dessus.
Un instant plus tard,
je regarde par la fenêtre. J'arrive pas à me concentrer. De toute façon, je sais pas ce que je regarde.
Scène 6, intérieur nuit, appartement de Cléa.
Je me réveille sur le canapé, la tête dans le cul. Il fait déjà nuit. Je prends mon portable, 16h58, message de Cléa.
J'arrive vers 17h.
Je me redresse, soupire. Je ziote un splendide manteau beige pendu près de la porte.
Scène 7, extérieur nuit, rue.
Je sors mon paquet de Bretec du beau manteau de Cléa. Je m'allume la clope, elle crépite dans la nuit.
Scène 8, intérieur nuit, Jakarta.
Flash, Farid dans le plumard me recrache, hilar, une volute de fumée dans le visage.
Scène 7, extérieur nuit, rue.
Je marche.
Flash, 10 ans plus tôt.
Dans ce bar, j'ai enfilé 13 shots de rhum et j'ai dégueulé. Sur ce pont, il y a Vincent qui m'a dit qu'il m'aimait. Il n'avait aucune chance, Vincent.
Scène 9, extérieur nuit, sur le banc devant le bar, le carreau.
Je sais plus où je suis. Je m'assois sur un banc et j'attends la chute de l'univers. Je regarde mon vieux téléphone. 2 heures déjà que je suis dehors. Je cherche papa dans mon répertoire, me ravise et le remet dans ma poche. Il y a un groupe de mecs en face, du banc, dans un bar. Il y en a un qui me regarde. Il est châtain clair, les tempes un peu dégarnies, la trentaine, des chaussettes vertes qui dépassent sous son jean. Il a l'air gentil. Il me regarde. Je regarde les gens passer. Et puis je le regarde à nouveau, pour voir. Il regarde derrière lui, puis me regarde lui aussi, me sourit. Merde, putain, il sort. Je mets mon nez dans ma manche.
Scène 9, intérieur nuit, bar.
Je plaisante avec Franck, ce débile de Francky, Guillaume et Brice, quand je la vois s'asseoir sur son banc. Avec son manteau de bourge et ses vieilles baskets trouées. Je ne comprends pas. Toute seule? Qu'est-ce qu'elle fait toute seule sur son banc avec un air tristoun et le froid qu'il fait dehors en plus? Je sais pas. Peut-être qu'elle a senti que je la regardais. Elle me regarde aussi. Je me retourne. Peut-être qu'elle attend quelqu'un du bar. Mais non. Il n'y a personne derrière moi. J'ose un sourire. Ça craint, je me dis. Elle va me prendre pour un débile, pire, un pervers, mais elle ne tourne pas le regard. Je dis à Francky. Je reviens, je sors.
Scène 10, extérieur nuit, sur le banc devant le bar, le carreau.
Hey!
Hey!
Tu fais quoi toute seule sur ton banc?
Je sais pas.
Je souris en regardant son manteau. C'est quoi ce manteau de ouf?
Je l'ai piqué à Cléa.
Ah, tu piques les manteaux, toi? Et c'est qui, Cléa?
Mon amie.
Je souris. Elle me fait un truc qui ressemble elle aussi à un sourire, mais j'en suis pas sûr. Elle est trop belle.
Je peux venir chez toi?
Elle demande. J'ai un bref esclaffement pour masquer ma surprise. Mon visage est sérieux. Chez moi, là?
Oui, chez toi, là.
Scène 11, intérieur, nuit, bus.
On se marre tout le trajet. On dit surtout de la merde. Elle est drôle. Drôle sans le faire exprès. D'où elle sort, celle-là? Je lui demande. Mais elle répond à côté. Peut-être qu'elle n'a pas envie de parler d'elle. Elle n'est pas bourrée pourtant. Je dis une connerie, et là elle rit. Je me dis qu'elle a le plus beau sourire que j'ai vu de ma vie. C'est con, hein. J'ai 28 ans, je suis quand même pas un gamin.
Scène 12, intérieur nuit, appartement de Michael.
Quand j'ouvre la porte, elle se déshabille tout de suite, là, comme si elle attendait que ça. Je souris brièvement en la regardant genre « Ah ouais, tout de suite, maintenant ?» Elle me déshabille aussi. Je la plaque contre la porte en lui prenant son petit sein dans la main. Je l'embrasse, caresse ses cheveux, la regarde souvent. Quelle beauté! Mais elle montre des signes d'impatience et semble insensible à ma tendresse. Alors je la pénètre contre la porte. Son visage est fermé. J'ai l'impression de la faire chier. Ça va ?
Oui.
Je te demande ?
Oui.
Ça me perturbe tellement son visage inexpressif que je dégonfle et je m'arrête. Elle me regarde, se retire, récupère ses affaires au sol et commence à se rhabiller. Je dis le plus gentiment possible : Qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne me répond même pas. Je remets mon caleçon tout en la regardant renfiler ses trois t-shirts les uns sur les autres. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle me regarde, comme ça, vide. Puis elle ouvre la porte et la claque derrière elle.
Scène 13, intérieur, nuit, appartement de Cléa.
J'ouvre mon ordi, site de cul crasseux. Une brune qui sent la drogue dure et la précarité est attachée les mains dans le dos, allongée sur un matelas à même le sol. Un homme cagoulé entre dans la pièce. Je déboutonne mon jean.
Donc maintenant, je vais vous lire la note d'intention qu'on a rédigée avec Mathieu. Donc encore une fois, je vais parler en son nom puisqu'il n'est pas là. Nous voulons parler de sexe. Nous, une femme et un homme, issus de la génération des millénials. Je m'appelle Brune. Je suis une femme de 34 ans, née dans une société patriarcale où l'anatomie féminine est encore trop inconnue. Où mon éducation sexuelle se résume à la pornographie, dans lequel je tombe, par hasard, bien trop jeune. à 6 ans. 24 ans plus tard, apparaissent des comptes Instagram qui parlent de jouissance féminine et de libération de la parole, à coups de « les poils de téton, c'est ok » ou « mal baisé », « mal, M-A, accent circonflexe, L-E-S ». Se multiplient des séries pédagogiques à la sex education, intimistes à la normal people, ou dédramatisantes comme le podcast Prude. Merci à ces autrices et auteurs qui parlent de sexualité. Leurs œuvres me rassurent, m'apprennent, me font grandir. Ce sont elles, ainsi que certains des sentiments relatifs à mon parcours sexuel, comme l'addiction, le dégoût et la culpabilité, qui me poussent à écrire aujourd'hui. Avec le petit monde de Claude, je souhaite parler de l'impact du patriarcat et de la pornographie sur le corps d'une femme, de la recherche, parfois désespérée, d'une place que son corps a perdue ou n'a jamais connue. Je souhaite sortir de l'ombre, et avec moi, nombre de femmes de ma génération, encore engoncées dans un imaginaire bouché et une faible estime de soi. C'est dur de s'exprimer sur un sujet si intime, quand on est seul. C'est pourquoi m'engager auprès d'un co-auteur est devenu un atout et une nécessité. Très simplement, Mathieu m'a aidée à accoucher d'une histoire, qui n'est désormais plus la mienne, mais s'est muée en la nôtre, avant de devenir celle de Claude, notre héroïne. Moi, Mathieu, j'ai toujours eu un peu honte d'être un homme. Adolescent et jeune adulte d'abord, je crains d'avoir été insistant, trivial et maladroit. Mais à 20 ans, j'ai assisté à une rétrospective des insoumuses, Carole Rossopoulos et Delphine Seyrig. Tous mes paradigmes de pensée sur le genre, sur la femme, sur la société, ont subi une révolution dont je me sens encore aujourd'hui profondément marquée. J'ai pris conscience que le spectateur cinéphile et assidu que j'étais avait une immense frustration, celle de ne pas avoir vu de films marquants avec de grands personnages féminins. J'écris depuis des personnages de femmes dans mes scénarios, et souvent, la même critique me revient en plein visage, ma légitimité. Il y a d'ailleurs une constante dans ces détractions, elles sont toujours l'œuvre d'hommes. Et cela me bride, autant dans mon écriture que dans ma vie. Quand Brune me fait entrer dans l'univers de Claude, plusieurs évidences m'éclatent au visage. D'abord, une envie viscérale de spectateur d'explorer un monde qui me paraît encore inconnu, l'intimité féminine. Car finalement, je n'ai que très rarement parlé de cul avec mes amis. Encore moins avec mes amis IES. Il est resté un interdit, un tabou. Mais grâce à Brune et nos discussions, je peux assumer d'être un homme blanc, cisgenre et hétérosexuel de 37 ans, qui souhaite soutenir avec ses armes et sa bonne foi d'autres voix que la sienne, sans qu'on me le reproche avec un militantisme louche. Un homme de 37 ans qui rêve que son fils vive adulte dans un monde où l'acceptation, le consentement et le plaisir sont les normes. Le petit monde de Claude, c'est l'évolution d'une sexualité handicapée par son addiction à la pornographie. Avec un tel sujet, il est impératif d'éviter les visuels tapageurs ou spectaculaires. Car si nous visitons les pulsions, la mécanique de séduction et les déceptions ou réjouissances, si nous parlons de sexualité, nous parlons aussi et avant tout d'intimité, de tendresse, d'être qui se cherche, de résilience. Et cela avec trois objectifs. Ne pas juger ni les hommes, ni les femmes, ni nos bagages familiaux, psychologiques et historiques. Construire une représentation positive de la sexualité basée sur la communication en normalisant les fantasmes dès lors qu'ils sont consentants. Et permettre à notre public de vivre avec émotion et humanisme l'histoire d'une jeune femme sur le chemin d'une vie plus sociale, plus ancrée dans son temps, plus respectueuse de ses propres limites, plus juste. Nous plaidons que le plaisir sensuel est sujet à discussion, amélioration, aventure et expérience. Malgré son millier de carcans à chaque génération, il est, à son cœur, un des piliers d'une force plus profonde, l'amour. L'amour ne commence ni ne finit comme nous le croyons. L'amour est une bataille, l'amour est une guerre, l'amour grandit. James Baldwin.
Merci Brune pour cette présentation et recontextualisation. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment tout ça s'est ancré dans un projet de série comme type d'écriture?
Alors, Donc on avait déjà cette envie aussi artistique et créatrice de faire une série avec Mathieu. Et puis, comme on parle de sexualité, on était quelque part obligés de le traduire sur une longue période. C'est pas quelque chose qui change en une semaine, c'est pas quelque chose qui change même en un an. Ça prend des années, une expérience pour qu'elle soit bouleversée, surtout une expérience aussi profondément ancrée que la sexualité. Donc, on voulait faire une série. Le pilote que vous avez entendu, donc un pilote, c'est le premier épisode d'une série qui montre un petit peu le monde dans lequel on plonge, les personnages principaux, l'ambiance. Et ce pilote se finit sur un moment assez fort, parce que Claude plante Michael, elle s'emmerde, elle le plante, et elle revient chez son ami pour regarder son film porno. Donc on va créer des épisodes de 26 minutes avec, bien que vous sentiez que, enfin, je pense que ça se sent quand même que l'ambiance est lourde. Là, c'est Claude à son quand on commence à la voir, donc elle est à son plus bas, elle est paumée, elle est assez sombre, et elle rencontre un Michael qui lui est assez candide, et j'ai l'impression qu'il tombe amoureux assez rapidement. Et donc c'est de cette dynamique un peu improbable que va naître quelque chose entre les deux personnages, qui va se développer. Et également l'intervention de Cléa, qui est aussi à l'antipode de Claude. Cléa, c'est une personne qui est enthousiaste, qui a beaucoup d'énergie, et qui travaille dans le milieu du sexe d'ailleurs, puisqu'elle est camgirl. Mais ça, on le découvre que plus tard. Et donc, ça va être une interaction principalement entre ces trois personnages. On a écrit la première saison, qui comporte 9 épisodes de 26 minutes. Et c'est une série qu'on veut résolument optimiste. On veut une fin qui se termine bien, parce que c'est quelque chose qui nous motive, on veut apporter un petit voile d'espoir aussi. C'est la sexualité est une chose qui peut se vivre joyeusement. Et bien que notre Claude est complètement dévastée quand elle débute son aventure, elle est plus légère quand elle la termine.
Eh ben, merci pour ce projet et cette lecture. On revient très vite pour continuer avec une lecture qui continue sur la thématique de la sexualité, devenir chienne. Et bonne écoute.
Vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est toujours le Théâtre de la Gamelle, votre émission sur la sexualité. Après cette première présentation et univers autour de la sexualité, on va vous partager maintenant des extraits de Devenir chienne de Itzar Ziga. Donc c'est aux éditions Cambourakis. Et Itziar Ziga a grandi dans une cité au Pays Basque espagnol, entre nuages toxiques et terrain vague fluo. Elle aime les boas à plumes, se déguise parfois en camionneur et se désigne elle-même comme une chienne. Une ouverture vers une sexualité autre, plus queer et féministe. Voilà. Bonne écoute.
Je suis née en guerre contre l'ordre patriarcal qui menaçait ma vie et celle de toutes les femmes. Je ne pouvais qu'être féministe. Cette tendance précoce à ne pas cadrer avec ce qu'on attendait des gentilles filles provoqua chez moi comme une révélation. Je ne serais jamais heureuse en me conformant aux limites de la féminité. Je devais les faire éclater. Comme les lignes droites ne me réussissent pas très bien, je me suis beaucoup perdue pour arriver là où j'en suis. Mais aujourd'hui, je publie un livre sur les putes féministes. Et plus personne ne me fera taire. Autre avantage de gagner sa vie comme serveuse, en plus de l'alcool gratuit, c'est que je n'ai pas besoin de me vendre quand j'écris. Que nous développions ou non un travail sexuel rémunéré, nous sommes beaucoup parmi les femmes féministes à enfiler le costume de pute. Et ce, depuis la puissante réappropriation de l'insulte. Depuis la certitude que toutes les femmes sont un jour ou l'autre traitées comme des parias disponibles sexuellement. Depuis la résistance quotidienne à l'injonction de nous défaire des mini-jupes et des corsets pour être prises au sérieux ou pour passer inaperçues. Depuis la construction excitante de notre personnage social. J'ai accepté la pureté comme une pire perversion. Ces mots de Marguerite Yourcenar me poursuivent, tournant boucle dans ma tête comme une prière. La vérité dite objective est toujours la version du pouvoir. Moi, j'écris depuis les marges, depuis les égouts du sexe. Depuis l'activisme et depuis la rage de genre et de classe, en tant que mauvaise femme et en tant que pauvre.
Ceci est un traité d'amour et aussi de revanche. Les chiennes dont je parle sont mes amies. Nous avons discuté pendant des heures avant de faire les entretiens pour ce livre. Je les adore et je vais les peindre comme je les sens. Pour moi, ce sont des déesses lubriques. Ma voix se confondra avec les leurs et avec toutes celles qui me sont parvenues à travers l'activisme, les reportages, les boulots, les nuits dans les bars, les livres, les souvenirs des autres que je fais miens, les écrans, les vents étrangers. Je ne crois pas au sujet, je ne crois pas à la personne, je ne crois pas à ma voix. C'est d'ici que je plaide pour la discordance de genre comme mécanisme de sabotage sexuel et linguistique. Ça m'a toujours brisé les ovaires de généraliser au masculin, mais je n'ai pas envie non plus d'alourdir ma narration avec des tièdes E-S, E/S ou encore E. E majuscule S. La ségrégation biologico-sociale de genre est pour moi de plus en plus trouble. Je ne sais plus ce qu'est une femme et ça ne m'intéresse pas de le savoir.
Une des accusations les plus fréquentes pour déprécier les féministes est la rengaine selon laquelle elles détestent les hommes. Dans mon cas, rien n'est plus éloigné de la réalité. J'adore les hommes. Ce que je ne supporte pas, ce sont les machos. J'ai beaucoup plus d'amis hommes que la plupart des imbéciles qui m'ont étiqueté anti-homme tout au long de ma vie. Et le féminisme a précisément été le discours vital qui m'a permis de soigner les blessures causées par la brutalité des machos et de m'allier aux hommes. De transformer ce cauchemar en un monde habitable. À propos des hommes qui ont cru à la fable de la virilité, je ne me lasserai jamais de répéter les mots de ma chienne d'amie Virginie Despentes dans son explosive King Kong théorie. Quand vous défendez vos prérogatives de mâle, vous êtes comme ces domestiques de grands hôtels qui se prennent pour les propriétaires des lieux, des larbins arrogants, et c'est tout. Ah, j'oubliais, que ce soit par tempérament, du fait des hormones endogènes et synthétiques qui me surexcitent en permanence, de ma passion pour le gin tonic, de mon horoscope maya, ou du fait d'avoir passé mon enfance dans la Errenteria des années 1980 qui était surnommée Beyrouth, je suis exaltée, incendiaire et tarée. Donc pour résumer, je suis une salope basque, féministe radicale, grossière et pamphlétaire. Avant que qui que ce soit me le crache à la gueule, voilà qui est dit.
Quand j'étais petite, on m'a appelée. Hey, garçon manqué, petit mec, petit mec. Juste parce que je ne me comportais pas comme elle, comme les autres filles.
comme cette partie de la population à laquelle j'étais censée appartenir et ressembler, juste parce que biologiquement nous étions nés avec les mêmes organes génitaux. Mais merde, qui a déclaré que toutes celles qui ont une chatte devaient se ressembler ? C'est avec ces mots que mon amie Irene Sala commence son éloquente vidéo Mari Machos, autre grande sœur de mon devenir chienne. Nous affirmons nos identités tordues comme réponse à la négation, comme résistance à l'invisibilisation par vengeance, plaisir et rage. La féminité et la masculinité sont deux pôles d'endoctrinement massif. Leur reproduction vise à modeler des hommes et des femmes à l'infini, en boucle, et l'échec est retentissant.
Tout comme moi, certaines des chiennes que j'ai interviewées ont été des princesses frustrées quand elles étaient petites, réprimées dans leur féminité spectaculaire par leur environnement familial et social. Certaines parce qu'elles avaient été identifiées comme des garçons à la naissance, les autres pour un millier de raisons. Dans mon cas, les moyens employés n'ont rien eu de terrible. Ma mère m'a coupé les cheveux pour ne pas avoir à se compliquer encore plus la vie en me coiffant, et je n'avais pas trop de tentations car aucune fille de mon école ne se ramenait avec des robes de princesse. Ça m'a enthousiasmée d'apprendre que quand elle était petite, Mariana avait deux perruques et une petite robe pailletée, et que personne dans son entourage ne s'opposait à ce qu'elle débarque à l'école comme si elle vivait dans un éternel carnaval. Pour ma part, je sentais que le miroir me renvoyait une image qui ne me correspondait pas. Je désirais ardemment avoir une longue chevelure ondulée et une vie aventureuse remplie d'exotisme, au-delà des barres d'immeubles de mon quartier dénué de glamour. Pour moi, s'habiller comme une salope représente une conquête associée à mon indépendance d'adulte.
À 14 ans, j'ai décidé d'aller dans un lycée où mon père n'enseignait pas et ça a été la rébellion totale. Je me suis laissé pousser les cheveux jusqu'à la taille. Je ressemblais à une lionne. J'avais une double vie. Dans l'entrée de mon immeuble, il y avait un espace pour les compteurs électriques. Et à cet endroit, je gardais les tenues avec lesquelles je sortais de chez moi. Je crois que ça a duré 2 ans, ces changements dans l'entrée. J'arrivais toujours en retard à l'école. Je me maquillais dans le miroir de l'ascenseur, les lèvres rouges, très femme fatale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me travestir en femme. Je suis morte de rire quand je pense que les efforts déployés par la famille de Majo pour la modeler en petite fille asexuée et innocente ont si catégoriquement échoué. Il suffit de la voir se transformer en chienne, peut-être la plus douce des vengeances.
On ne permettait pas non plus à Sarah, quand elle était petite, de montrer la princesse qu'elle avait en elle, mais les circonstances étaient très différentes. Elle a passé son enfance dans un environnement de femmes en lutte contre l'autorité patriarcale. La mère et les grandes sœurs de Sarah ont bataillé contre un système judiciaire qui n'envisageait pas encore le divorce comme un moyen pour fuir un père violent. Ma mère me castrait. Elle me disait « On n'est pas ici pour plaire, notre tête est faite pour penser, pas pour être coiffée. » Elle me répétait de faire attention, que mon apparence physique pouvait attirer des ennuis et qu'il ne fallait pas que je la soigne trop. Je n'ai pas pu explorer tout ça à ce moment-là. Je l'ai fait plus tard. Sarah ne s'en souvient pas comme d'une obligation traumatique. Aujourd'hui, elle adore les combis en lycra et défend inlassablement les femmes contre la violence patriarcale. Le regard des hommes. Il n'y a rien de plus monstrueux qu'une femme qui ne sert pas le patriarcat, m'a dit une fois Marot, en pleine extase après avoir écouté Jack Halberstam. Lui qui a déserté le genre féminin dès qu'il a vu la lumière de ce monde, à moi qui ai décidé d'incarner la féminité la plus proscrite. Cette chaîne de Majot l'explique ainsi. Face à une femme très masculine, les hommes se sentent provoqués, parfois au point de devenir violents envers elle. Mais en même temps, ils éprouvent une sorte de respect. Face à une femme très féminine, ils se sentent attirés. Tu es un fantasme devenu réalité. Mais en même temps, ils te respectent moins, parce qu'ils pensent que tu leur appartiens. On ne pardonne pas à la butch et aux transgenres, qui sont cousins germains, de ne pas servir les hommes, de ne pas baiser avec eux et donner naissance à leurs fils, leurs héritiers. On ne pardonne pas à la femme féminine radicale d'être appétissante physiquement, mais pas constamment disponible sexuellement. De là vient le mythe de l'allumeuse, un terme que j'ai fini par m'approprier. Tu es responsable, si tu te promènes à moitié nue, de toutes ces queues qui se dresseront sur ton passage. Et si tu n'aides pas ces pauvres queues téléguidées hors de contrôle à se soulager, c'est que tu es une sale pute.
Il y a quelques années, je jurais mes grands dieux que je m'habillais comme une pute parce que j'en avais envie, indépendamment de ce que pensaient les hommes. Mais ce n'est pas vrai. Il est impossible de se construire à la marge du regard hégémonique masculin. Toutes les chiennes avec qui j'ai parlé m'ont expliqué comment leur mise en scène s'est toujours adaptée à leur besoin de répondre aux constantes interpellations publiques de la part des mâles. Majot s'est rendu compte qu'un crâne rasé ou des rangers court-circuitaient son image de Lolita fatale dragable, et que les garçons y réfléchissaient alors à deux fois avant de venir l'embêter. Paola, que les commentaires incessants dans les rues de Buenos Aires commençaient à fatiguer, a découvert qu'elle pouvait noyer son corps spectaculaire dans des vêtements amples, afin de devenir plus invisible quand elle le désirait. Avec le temps, Véro a perfectionné ses tactiques de réponse et aujourd'hui, quand elle aperçoit au bout de la rue un connard prêt à l'interpeller, elle lui prépare un énorme rôt de femme des cavernes. À l'époque de sa révélation féministe à la fac, Laura était tellement en rogne contre la violence machiste que quand un mec la sifflait, elle criait du haut de son 1m50 « Viens ici, salaud, que je te coupe la queue !» Carmela apprécie de plus en plus la sensation testostéronée que lui apporte la pratique d'arts martiaux quand elle croise un emmerdeur dans la rue. À une époque, Begonia et moi, on s'engueulait tellement souvent avec des crétins qu'on avait plus l'impression de partir au combat qu'en soirée. Répondre au harcèlement constant des mâles fait partie de notre construction en tant que chienne. Tant de fois, on nous a conseillé la discrétion. Si tu n'étais pas habillée comme ça, tu aurais moins de problèmes. C'est une option de se camoufler, de renoncer à l'image qu'on désire de soi-même afin de vivre plus tranquille. Nous l'avons toutes fait à un moment ou un autre. Avant, j'habitais à la Mina, me racontait Sarah. Je portais une robe quand je sortais du quartier et d'autres vêtements avec mon entourage. Au moment de rentrer chez moi, je renfilais un déguisement. Parfois, c'est une simple question de survie.
J'ai essayé de contenir dans ces pages mes impressions sur la violence machiste. J'avais peur qu'une fois les vannes ouvertes, tout soit submergé. Et puis, ce serait ou ce sera l'objet d'un autre livre. Je parle depuis le dépassement et la rage, et non depuis le traumatisme. Mais quand, à l'âge de 8 ans, tu ramasses ta mère inconsciente sur le sol de la cuisine, tandis que ton lâche de père crie « Ne me fais pas ça, je ne veux pas aller en prison !» Il n'est plus possible d'ignorer la violence qui traversera ta vie de femme et celle de toutes tes sœurs. Parce que je suis une personne accessible, ou parce que je n'ai jamais respecté le pacte de silence inhérent à la violence domestique, beaucoup de femmes m'ont confié les détails de leur vie. Et je peux vous dire que peu d'entre elles se sont libérées d'un père violent, d'une agression dans un hall d'entrée ou d'un viol conjugal.
Il est impossible de divaguer sur la féminité sans parler de violence. Les marques de féminité signalent aux mâles leurs victimes potentielles, que ce soit les femmes, les PD ou les hommes faibles. En tant que femme, et a fortiori en tant que femme féminine, nous devons vivre en sachant qu'à chaque instant, nous pouvons être agressés. Cette peur fait partie intégrante de notre socialisation, du processus de dressage par lequel nous devenons de craintives servantes de l'ordre patriarcal. Je n'en peux plus d'allumer la télé pour voir une énième blonde dans une forêt sombre fuir une menace qui, nous le savons pertinemment, finira par la rattraper et la détruire. Je n'en peux plus.
C'est pourquoi j'ai tant besoin du discours de Virginie Despentes, de son apologie de la vengeance contre le viol. En 2000, son film « Baise-moi » fut retiré des salles de cinéma commerciales françaises à cause de son mélange explosif de violence et de sexe. Si on s'en tient à ce critère, nos écrans, petits et grands, seraient condamnés à rester déserts. Mais bien sûr, un homme blanc trucidant des femmes comme des lapins, ce n'est pas la même chose que deux filles franco-arabes assassinant systématiquement ceux qu'elles croisent sur leur chemin ou dans leur lit. Les femmes n'ont pas le droit de tuer des hommes. Voilà qui serait monstrueux, d'autant plus si elles sont belles. Et c'est encore pire si les actrices et réalisatrices du film sont des travailleuses du sexe et stars du porno sur lesquelles les hommes se sont branlés un millier de fois. Ce sont les hommes qui violent et tuent, les gentilles filles comme les putes, et non l'inverse.
Ne me libère pas, je m'en charge. Ok, je suis une pauvre occidentale catholique malade de binarisme, comme pas mal d'autres en nous. Je ne pourrai jamais échapper, même si j'essaye, à la dualité masculin-féminin. Et comme je n'y arrive pas, je préfère en rire plutôt que de me mortifier pour cela. Il n'y a rien de plus sacrilège que de réciter une prière à l'envers, rien de plus plaisant que de représenter la féminité en l'égratignant avec des ongles écaillés de vernis bon marché. Pervertir les codes de la gentille fille. La jonction entre la mise en scène hyper féminine version salope et le positionnement antipatriarcal m'intéresse, parce que c'est le no man's land que j'habite.
Je ne me fais plus toute petite face au regard des autres, et je suis fière de ne pas avoir renoncé en chemin et de ressembler à ce que j'ai toujours rêvé de moi-même, comme Magrado dans Tout sur ma mère. Et en réalité, ce dont j'ai envie, c'est de ne pas me justifier politiquement. Plein d'autres n'ont pas eu à le faire. Je n'ai jamais supporté la prétention de ceux qui me conseillent d'être discrète. Ma grand-mère m'a répété 1000 fois que j'ai toujours fait ce dont j'avais envie. Parfois, je pense que j'ai développé une féminité extrême juste pour sortir l'ogre de la grotte et lui arracher la tête. Et aujourd'hui, je me souris dans le miroir, dressée sur des talons impossibles, les seins doucement étranglés dans un corset et un dildo se balançant entre mes jambes. Sérieux, qui pense que j'ai l'air d'une servante du patriarcat?
C'était Devenir chienne de Itziar Ziga. Et merci pour votre écoute et merci à Wendy qui m'a mis en lien avec la maison d'édition et ce livre. Eh ben, c'était une émission donc sur la sexualité assez complète. Vous avez peut-être des réactions suite à cette lecture ensemble.
Oui, moi j'ai des questions pour Annelise et Mehdi, donc les deux lecteurs, les deux acteurs, actrices, lecteurs, parce que c'est la première fois que le texte pilote est lu. Il a été créé avec la Bible de la série un peu en apnée pendant 4 mois, et aujourd'hui c'est le jour où il prend l'air avec vous. Donc déjà merci, parce que c'est un cadeau inestimable d'amener du vivant sur un texte qui se sentait bien seul jusqu'à présent. Et j'avais des questions pour vous entre le pilote et la note d'intention. Enfin voilà, ce que vous avez découvert aujourd'hui du projet. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interrogé? Qu'est-ce que vous avez des ressentis particuliers? Est-ce que quelque chose a retenu votre attention?
Eh bien écoute, d'abord merci à toi Brune, et puis merci à Bruno, parce que c'est un grand honneur d'avoir pu lire ce pilote. Je trouvais ça assez émouvant de pouvoir le lire devant toi aussi qui a écrit le texte. C'est un très beau texte, on se projette facilement dans la future série, et puis je souhaite longue vie à cette série. J'espère que voilà, vous aurez du succès. En tout cas, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Je l'ai, pour ainsi dire, découvert ce matin, parce que j'ai juste eu le temps de survoler le dossier, et c'était assez émouvant d'habiter ce personnage de Claude. J'ai trouvé que vous aviez vraiment une finesse dans la manière de traiter les personnages. Il n'y a rien de manichéen ou de caricatural, c'est voilà, la vie, la vraie, le sujet est bien amené, il y a une grande liberté, je trouve, dans la manière de traiter le sujet, une grande humanité. on est avec les personnages, quoi. Ils m'ont beaucoup touchée, vos personnages. C'est difficile d'en parler comme ça à chaud, mais et puis on l'a relu plusieurs fois, et ouais. plus on lisait, plus, j'ai, ouais. plus je voilà, j'arrivais un petit peu à
trouver la complexité,
à ressentir aussi ce que cette jeune femme pouvait ressentir, et voilà. Donc merci. Merci. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui.
Bah ouais, trop cool, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette lecture. Moi aussi je découvre le texte un peu ce matin, que je trouve aussi intéressant, et c'est surtout, c'est pas par rapport à la note d'intention que je trouve aussi intéressante, moi je vais surtout parler de celle de Mathieu du coup, et c'est vrai que je me reconnais quand même un peu dans ce qui est dit dans la note d'intention. Il y a plein de choses dont moi j'ai pris conscience quand même aussi assez tard, parce que venant d'un milieu plutôt populaire où mes parents eux-mêmes n'ont jamais eu trop d'éducation sexuelle, et même quand ils étaient adultes, je pense que ça reste encore... bref, je vais pas trop savoir ce qui se passe, tu vois, mais voilà, du coup, moi je me suis fait aussi cette éducation un peu tout seul à travers les réseaux. Enfin, les réseaux sociaux, il y a quoi, y en a plein. J'ai aussi découvert le livre par la Jouissance Club que j'ai lu. J'ai appris aussi pas mal de trucs. Et en fait, ça m'a permis de m'ouvrir et d'avoir un regard différent sur la sexualité.
T'as quel âge ?
Moi, j'ai 31.
Ouais, donc on est de la même génération, j'ai 34.
Du coup, c'est vrai que... c'est pareil, hein, je me suis éduqué un peu genre au porno, enfin des trucs comme ça, au final c'est un peu triste. Mais d'ailleurs moi j'ai une formation de moniteur éducateur, et je faisais un peu d'éducation sexuelle avec ma collègue avec des jeunes, des très jeunes, et c'est vrai que déjà là je voyais qu'ils avaient comme seule éducation en fait la pornographie. Et
c'était quand ça?
Ça c'était il y a 3-4 ans, quoi.
Avec des jeunes de quel âge ?
De 15 ans.
Et du coup, je rebondis aussi. Et c'est ce que je trouve assez fort dans le propos. Hein. Ça se passe aussi un peu de commentaires, mais à la fois cette éducation par la pornographie a marqué la construction du personnage de Claude. Et d'une manière pas forcément très épanouissante, hein. Et du coup on voit du coup comme elle se réapproprie les codes de cette sexualité dans la relation aussi avec des hommes, dans les relations hétérosexuelles. Et du coup moi j'ai aussi apprécié cette manière non moraliste de présenter les choses de manière brute, et c'est aussi ça qui m'a inspirée pour compléter avec un autre propos qui n'est pas du tout non plus ni victimisant ni moraliste de Itziar Ziga sur non seulement la sexualité, mais comment on est perçu en tant que femme, qu'on peut être harcelée, mais comment on peut en faire une force aussi. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce propos, c'est que comment on avance et qu'on vit avec ça, comment on se construit dans notre sexualité. Moi non plus, je pense pas que mes parents ont eu une éducation sexuelle particulière, si je suis pas particulièrement issue d'un milieu prolétaire, et comment tout on fait à notre endroit, toutes et tous, et comment aussi, en tant qu'homme, on se positionne là-dedans, et qu'on peut avoir droit à la parole, à son endroit, là-dessus.
C'est justement ça, je trouve que c'est difficile. On remarque dans les relations sociales qu'il est difficile de parler de sexualité en étant au bon endroit, comme tu dis. C'est-à-dire souvent, comme tu le disais si bien dans la présentation, soit on en rit, soit on n'en parle pas. C'est difficile d'en parler avec naturel, finalement. Parce que finalement, comme le dit Mathieu, au bout du compte, il y a aussi la question de l'amour, finalement. Pourquoi on fait l'amour, quoi ? C'est aussi ça, la question. Enfin, du coup, ça touche à beaucoup de questions autour de la sexualité, votre série, et c'est vraiment émouvant et intéressant.
Et justement, c'est intéressant comme
faire du sexe, est-ce que c'est faire l'amour et toutes les manières différentes de faire du sexe et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et toutes les réalités qu'il y a derrière.
Exactement.
On pourrait en parler longtemps, je pense. Mais nous arrivons au terme de cette émission et heureusement, il nous reste quelques minutes. On va faire un petit point actualité, agenda pour partager notre actu. Est-ce que vous avez des actus à partager ici, Brune?
Brune, je sens. Oui,
j'ai une actualité à partager. Avec l'association Le 7e Sénart, on organise un événement qui s'appelle le Marathon d'écriture de Lyon, qui est ouvert aux scénaristes et aux non-scénaristes également, ceux qui aiment l'écriture. Le principe, c'est de poser un dossier. Dans ce dossier, il y a un scénario de 10 minutes environ et une lettre de motivation. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 mars. Donc, il vous reste un petit mois pour poser vos dossiers. Et ensuite, il y a une sélection de 10 participants. Et il va y avoir un marathon d'écriture en 45 heures ou comment écrire un film en 45 heures, entouré de deux professionnels de l'audiovisuel de la région avec une soirée de remise des prix.
Waouh, je vais y penser. Je rebondis pour la pièce dans laquelle je joue actuellement jusqu'à samedi prochain, jusqu'au 11 mars, au Nouveau Monde de Gérard Filizetti, la compagnie Les Armateurs. Nous jouons à l'IREP Scène Théâtre tous les soirs, non, du jeudi au samedi jusqu'au 11 mars à l'IREP Scène Théâtre. Et c'est une pièce, une tragicomédie sur la violence sociale dans le mouvement, sur fond de lutte féministe. Venez nombreuses et nombreux, c'est assez rythmé, c'est une belle écriture et ça traite d'enjeux actuels.
Eh bien, moi je vous invite à venir au cabaret Cirque et Clown que la compagnie Parpin, ma compagnie, organise. Et ça se passe à la Boîte à Gants, c'est dans les Pentes, c'est 6 rue Pierre Blanc. C'est le 17 mars et les ouvertures des portes, c'est à 19h. Donc voilà, venez nombreux, nombreuses.
Eh bien moi, alors je suis une mauvaise élève parce que je n'ai pas préparé, mon propos, mais je voulais vous parler d'un festival qui s'appelle La Grande Rêverie et qui est organisé par la compagnie La Rouquine à Oulin au mois d'avril. Du coup, je vous laisserai être curieux et chercher les dates parce que je n'arrive pas à accéder à la page, je suis désolée. Donc Elsa, si tu m'entends, ne m'en veux pas, mais La Grande Rêverie, c'est un festival qui est ouvert à toute la famille, où vous trouverez des spectacles, des animations, autour aussi de l'écologie. Donc je vous invite à y aller, c'est la deuxième édition et c'est au mois d'avril. De mémoire, ça doit être à la fin de la deuxième semaine de vacances, le week-end. Voilà.
Et merci beaucoup. Et
merci.
C'était le Théâtre de la Gamelle. On vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.